Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
La réussite sociale, qu'est-ce que ça veut dire en fait aussi, tu vois ? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent, mais t'es malheureux, enfin. Et c'est surtout que la réussite, j'ai l'impression que c'est souvent lié à un but. Genre, j'ai réussi ma vie si j'ai atteint ça, si... Et ça, ça me parle tellement pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin, tu vois, c'est d'être sur le chemin, c'est ça qui me remplit. Je crois que ça peut être chouette de s'autoriser à rêver. Même si au final, ça vient pas, mais de se dire, ok, vers où t'as envie d'aller. Et peut-être après d'aller carrément à l'opposé, et c'est pas grave.
Ilia, c'est la petite fille qui a grandi au milieu des bois et qui depuis toujours est sensibilisée à la cause environnementale. Elle a été bercée par le chant des oiseaux, le rythme des saisons et de la nature. Alors quand elle m'a raconté son enfance, j'ai reconnu en elle la petite fille que j'étais. Elle aussi se posait des questions, beaucoup de questions, sur le sens de tout ça, de la vie, de qui elle était. Alors que moi je suis allée chercher des réponses en tendant mon micro jeune, Ilia, elle, a été appelée par des études de psychologie. Elle a fait son petit bout de chemin au fil de rencontres, en saisissant les opportunités qui s'offraient à elle. Et en 2017, elle surfe sur la vague de l'influence pour diffuser du contenu autour d'un seul et même message. L'importance de relier l'esprit, l'âme, le corps et l'image. C'est à travers le partage qu'Ilia rend à sa manière le monde un peu plus doux. Elle se décrit comme une grande curieuse, mais Ilia c'est aussi la douceur, le sourire, le soleil... Et ça fait du bien de croiser la route de personnes aussi énergisantes. Enregistrer cet épisode a agi sur moi comme une thérapie. Alors je ne vous en dis pas plus sur le contenu de notre discussion et je vous laisse faire de cette écoute une jolie balade thérapeutique. Salut Ilia.
Salut.
Merci de m'accueillir chez toi. Je suis ravie de te tendre mon micro.
Avec plaisir.
J'ai eu la chance d'interviewer Ferdinand il y a un an.
Donc ma fille était née déjà ?
Alors je sais pas.
Tu sais plus.
Je sais plus du tout. Ouais. Mais en plus, on l'avait fait à distance avec Ferdinand et je me souviens, j'avais été frustrée. Je me suis dit, mince, je ne l'ai pas rencontré en vrai. Et puis, il y a eu le Covid. Enfin, c'était compliqué. Et donc là, je te tends aujourd'hui mon micro à toi. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Ferdinand. Donc, c'est merveilleux. Ilia, j'ai l'habitude de présenter en une phrase l'invité que je reçois. Mais en fait, j'ai eu du mal à te décrire en une phrase. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas fluide. Je me suis dit, mince, je ne sais pas comment la caractériser, donc je vais lui demander, toi en quelques mots, comment tu pourrais te décrire, pas forcément en décrivant ce que tu fais au quotidien, mais en me disant qui tu es toi.
Ça me fait rire parce qu'au moment où t'as dit ça, je me suis dit, ah trop bien, enfin à un moment on va pas me demander de me présenter parce que je galère à chaque fois et elle va me dire qui je suis, tu sais, ça va m'aider. Non,
je pourrais essayer si tu veux.
Merci, c'est sympa. En fait, il me refile la patate chaude. Alors, très bien. Pas parce que je fais. C'est une bonne question parce qu'on dit souvent qu'est-ce qu'on fait pour plutôt que de dire qui on est. Je dirais que je suis quelqu'un de super curieux depuis toute petite et c'est ça je crois qui m'anime au quotidien, à la fois dans comprendre le monde qui m'entoure, mieux me comprendre moi. Alors ça c'est une sacrée aventure. Et qui en fait m'a guidée tout au long de ma vie à découvrir des nouvelles choses, à explorer. J'adore explorer, découvrir. Tu vois, je pense que c'est vraiment quelque chose qui un peu le fil rouge chez moi. Et aujourd'hui, je crois que tout ça, ça m'a amenée à avoir créé peut-être une vie, une sorte de métier, si on peut dire, qui me parle. Effectivement, là, pour le coup, en étant aussi professeur de yoga, mais pas que, il y a plein de petites casquettes que j'ai,
Mais pour comprendre qui tu es aujourd'hui, ouais. Je trouve que c'est important toujours de revenir à l'enfance pour savoir quelle petite fille tu étais. Est-ce que tu peux nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi et l'éducation que tu as reçue ?
Alors, moi j'ai grandi au milieu de la forêt, à la campagne, à peu près 40 minutes de Toulouse. Mon papa avait fabriqué la maison, enfin il avait fait les plans de la maison, fabriqué la maison, donc avec un ami, enfin qu'il avait payé, mais donc vraiment très écolo, le plus possible. Avec une chaudière à bois, et ils n'ont, je crois, pas fait de prêt, c'était pas du tout, ils voulaient pas participer à ce système-là. Donc la maison s'est construite au fur et à mesure, je crois qu'on a eu du carrelage, j'avais 16 ans dans la maison, c'est juste une chape de béton, mais j'en ai jamais souffert, c'était trop bien. En été, il faisait trop chaud, on mettait de l'eau, tuyau d'arrosage dans le salon et ça rafraîchissait la maison. Quand je raconte ça, les gens se disent « mais c'était quoi cette enfance ?» Mais moi, j'ai adoré. Et donc, on était au milieu de la nature et avec des parents, notamment un papa très écolo, donc où j'ai été... j'ai grandi avec ces valeurs-là dès le début. Ouais, militante et anticapitaliste et voilà. Ça, c'est... je viens de là. Donc, automatiquement, c'est quelque chose qui... Je pense que c'est des graines qui ont été plantées. Et qui ont germé.
Quels étaient tes rêves quand tu étais petite ?
Quand j'étais petite.
Quand tu pensais à la Ilia qui sera grande, tu l'imaginais comment ?
Alors déjà, je savais déjà depuis toute petite que je ne serais jamais salariée. Ça, c'était... Mais dès le début, je disais ça et les gens me regardaient en mode « bah si, bah non, en fait non, j'aurais jamais de patron, je dois être le chef ». C'était un peu mon caractère quand j'étais petite. J'étais souvent un peu la chef dans le groupe et tout. Et c'était déjà là, en fait. J'ai toujours eu besoin de me dire, je dessinerai mon emploi du temps. C'est pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire. Alors, j'ai voulu être avocate. J'ai voulu être juge pour enfants. Là, pour l'instant, je pense que quand même, t'as quand même un petit peu des bosses au-dessus de toi. Mais j'ai voulu être décoratrice d'intérieur. J'aurais jamais pensé être prof de yoga et faire ce que je fais aujourd'hui, mais au final, c'est parfait.
Ouais, finalement, tu as fait des études de psycho.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené à ça
à partir de... J'ai oublié de dire psycho. je pense pas que c'est un truc dont tu rêves à ça quand t'es petite, à 10 ans, tu te dis « Oh, je veux être psychologue ».
Bah du coup, à partir de quel âge, de quel moment tu t'es dit « Tiens, ça m'intéresse, comprendre... »
Le lycée. Le lycée, j'hésitais justement entre droit et psycho et je suis partie 2 ans en droit. Je voulais être avocate pour Greenpeace, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai fait non, c'est trop rigide en fait pour moi, trop. Je pense que indirectement, il y a trop d'injustices qui m'auraient fait péter les plombs, hein, d'être confrontée vraiment au système en fait. Même s'il faut s'y confronter, mais j'étais, je pense pas prête à ça. Et après ces 2 ans, je suis partie en psycho. J'avais, je crois, franchement, je pense que si des gens te disent qu'ils vont en psycho, pas pour se comprendre eux, c'est qu'ils mentent un peu à mon avis. On va bien sûr faire des choses. Enfin, la psycho, c'est aussi une manière dans un premier temps de... je sais pas si c'est comprendre ses névroses, mais un petit peu quand même. Tu vois, se dire comment je fonctionne et comment je peux peut-être aller mieux aussi.
Qu'est-ce que tu as compris de plus important sur toi pendant ces études ?
qu'en fait, c'était qu'on te dit plein de choses, mais que par contre, c'est à toi... de retenir ce qui te parle. Donc rien à voir avec vraiment ce que j'ai compris de moi. Je pense qu'en fait, ça m'a donné plein de clés, mais qu'il ne faut pas prendre tout comme des vérités. Tu vois, on te donne plein de cours, et puis sachant que dans chaque fac, il y a une orientation freudienne, lacanienne, selon... Et donc en fait, genre, il y a une vérité, une autre, c'est pas vrai. C'est à toi, parmi tout ça, de dire « Ok, ça, c'est intéressant. Ça, ok, ça me parle pas du tout. » Et tu vas créer... ton propre mélange, en fait, pour mieux te comprendre et mieux comprendre le monde qui t'entoure. Voilà. Et oser dire que des fois, peut-être que ça suffit. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée au master.
Oui, master 1.
Ouais.
Pourquoi ?
J'en pouvais plus.
Qu'est-ce qui te dérangeait ?
Parce qu'on te dit, t'es libre de penser et en fait, pense comme on te dit de le faire. Et ça, c'était juste plus possible, en fait. Et surtout, ce qui me manquait, mais alors énormément... c'était le corps. Moi, j'avais l'impression qu'on parlait que de la tête, que du mental, que le corps était vu comme comme une série de symptômes, tu vois. Mais que l'intelligence du corps en elle-même, on l'oubliait, en fait. Tu vois, que le corps, il te parle, mais pas que à travers une maladie. Il a aussi une manière, tu vois, même quelque chose de peut-être plus de l'ordre de l'intuition et aussi la dimension de l'âme. Alors, tu le retrouves chez Jung, mais en tout cas... à la fac du Mira, Jung, c'est pas très présent. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. J'ai envie de dire, je ne suis pas qu'un mental, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui t'a vraiment plongé dans la spiritualité, finalement ?
Au tout début, ça a été ma mère qui est allée faire un soin en Reiki. Ça lui a beaucoup parlé. Et je dirais peut-être le premier truc qui m'a le plus marqué, c'était ma sœur qui avait une verrue à la main. Et ça faisait des mois et des mois qu'elle allait chez, tu sais, la dermato pour lui cramer. Et en fait, on n'y arrivait pas. Ça. Elle a dit, il faut vous opérer. Mais sauf que ma sœur était droitière. Mmh. Et ça voulait dire qu'elle n'allait pas pouvoir écrire pendant peut-être un mois ou deux. Et ma mère a trouvé une magnétiseuse. Et la magnétiseuse, en gros, elle y arrivait, elle lui a fait je sais pas quoi. Et le lendemain, plus rien. Et là, j'ai fait... Moi qui étais ultra cartésienne, tous ces trucs, j'y croyais pas. J'étais vachement dans... En gros, tu vois, tu crois que ce que tu vois. Enfin, très scientifique. Des fois, j'étais là, mais les gens qui croient à Dieu, tout ça, c'est, ils sont débiles. Franchement, vous êtes débiles, vous voyez pas. Tu sais, je jugeais vachement. Et là, j'ai commencé à me dire... Il y a des trucs que tu comprends pas, en fait. Et ça m'a ouvert... Tu sais, comme si ça avait vraiment déverrouillé quelque chose. Tu sais, peut-être cet enfant qui aime croire au miracle et au bout d'un moment, te dit « Ouais, alors arrête ça. Ces trucs-là, la magie, ça n'existe pas. Maintenant, il faut grandir. Tu vas dans le monde des adultes. Bonjour le collège. Ouais. On se prend tous une grosse claque. Ouais. Et maintenant, t'arrêtes. » Eh ben, je crois que ça, c'est comme si ça avait rouvert cette petite porte-là et dire « Attends, il y a peut-être autre chose, en fait. » Tu vois ? Et là, ça a été le début d'une reconnexion à autre chose que ma tête. Mmh.
Tu dis qu'en grandissant, tu es passée par différentes phases, et notamment celle de vouloir faire comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire comme tout le monde ?
Alors, quand j'étais au collège, c'était avoir un sac de classe, un chippie. Je suis plus jeune, plus vieille que toi, donc je sais pas si toi t'as vu ça, mais nous c'était les sacs.
C'était Eastpak.
Eastpak, ça c'était après. En fait, c'est tous ces trucs de faire comme font les copains, tu vois, quand t'as des parents qui, en tout cas, notamment un papa qui est très en mode ça n'a aucun intérêt de payer de la marque, ce que je peux comprendre maintenant. Pour moi, c'était quelque chose, je voulais faire comme les autres, en fait, avoir mon agenda de marque, ma trousse. Et je crois que c'est quelque chose par lequel j'avais besoin de passer. Tu vois, le monde de la consommation. Et je crois que mon père, il pouvait s'arracher les cheveux en se disant « Mais j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois, pour que ma fille elle soit... » Mais en fait, c'est pas la question. Je pense que t'as besoin de faire ton chemin. Et même si ton père te dit des trucs, t'as besoin de toi d'aller comprendre pourquoi, tu vois, et de te faire... ce propre cheminement, de te rendre compte qu'en fait, ça te rend pas heureuse de consommer.
Donc, tu penses que c'est inévitable, finalement, de passer par là ?
J'en sais rien. Il y a des personnes qui en ont peut-être pas besoin. Moi, j'en ai eu besoin. Et j'ai pas envie de juger le fait que j'en ai eu besoin. Tu vois, je me dis, moi, j'ai eu besoin de passer par là. Il y en a peut-être qui en auront pas eu besoin. Et tant mieux. Mais je pense que ça me permet aussi de mieux comprendre ceux qui, aujourd'hui, en ont besoin. Parce qu'on vit dans un monde... d'un discours capitaliste qui te dit la possession rend heureux, acheter va te rendre heureux, acheter va te remplir. Et donc, ton mal-être profond, tu verras, si tu t'achètes la nouvelle paire de chaussures machin, ça ira mieux. En fait, quand t'es passé par là et que tu t'es rendu compte que non, ce discours ne fonctionne pas, en fait, au fond, ça te permet de mieux comprendre comment l'autre en face peut être impacté par ce discours et lui proposer des alternatives aussi, tu vois. Et être aussi moins dans le jugement. Parce que je pense que, en fait, le jugement, ça fait beaucoup de mal. Tu vois, on est tout le temps en train de se juger les uns les autres, mais quand finalement, toi, tu as vécu quelque chose, tu te dis, je vais accueillir cette personne, comment j'aurais aimé, moi, être accueillie, tu vois, à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui, du coup, t'a fait comprendre, t'a fait réaliser que ce discours un peu matérialiste, il sonnait faux pour toi ?
Plusieurs choses, mais je pense qu'effectivement, quand j'ai écrit mon mémoire en Master 1, c'était la singularité féminine, les achats compulsifs de vêtements.
Ça ne parlait pas du tout de moi.
Énormément. Et en fait, j'avais, je crois, besoin de comprendre pourquoi j'étais impactée par ça, pourquoi j'avais ce besoin d'acheter. Et pourquoi, en fait, ça ne me rendait pas heureuse, alors que pourtant, on me disait que ça allait me rendre heureuse, tu vois, comprendre. Et effectivement, là, pour le coup, c'était un mémoire très lacanien, mais qui était intéressant parce que Lacan a fait beaucoup de recherches sur le discours capitaliste, justement. Et de te faire comprendre qu'en fait, justement, il te vend la chimère de te dire « je vais remplir un vide qui est constitutif de l'être humain, voilà, qu'il faut juste accepter, en fait. Et je te fais croire que bah, de posséder, ça va te rendre heureuse. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça qui se passait, en fait, que c'était pas que moi, il y a, que j'étais en fait soumise à ce discours-là depuis toute petite, et que c'est un truc que déjà, tu vois, tout petit, tu vois la télé, la Barbie, machin, le truc... Et tu vois les gamins qui ont l'air heureux, on le voit plus trop, il y a beaucoup moins, j'ai l'impression, de pubs pour les enfants maintenant que par rapport à notre époque, étonnamment. Mais je pense qu'ils sont... ils auront envie de smartphone à 10 ans, donc effectivement. Mais je crois qu'il y a ce truc-là qui te fait comprendre, en fait, à un moment, qu'il y a autre chose à aller interroger, tu vois. Et si, effectivement, il y a un mal-être... Ok, on parle d'un vide constitutif, mais au-delà de ça, s'il y a un mal-être, bah, d'où il vient, en fait? Qu'est-ce que ça a dit de toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te remplir absolument? Ça peut être avec la nourriture aussi, tu vois. C'est pas, il y a pas que la consommation de vêtements, mais c'est, tu vois, c'est cette quelle souffrance peut-être chez toi ça vient pointer du doigt. Et là, ça devient intéressant.
Et donc pour changer son rapport à la consommation, c'est un changement de rapport à soi-même.
Ouais.
Qu'est-ce qui toi t'a aidé à prendre à t'écouter?
Bah déjà. Tu vois, quand t'as une pointe un peu compulsive hein, qui arrive, que ce soit effectivement alimentaire, d'achat, de tout ça, il faut que j'achète, c'est déjà un moment de se dire, ok, c'est comme s'asseoir, j'ai pas envie de dire méditer dessus, mais presque, c'est s'asseoir, hop, se dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que là, il y a eu une émotion qui était là juste avant? Est-ce que c'est parce que je me suis pris la tête avec mon chéri? Est-ce que c'est parce que là, je suis face à une contrariété au boulot et qu'en fait, voilà, j'essaie de venir anesthésier cette émotion? Parce que je pense qu'il y a un peu de ça. On essaie de s'anesthésier de mille et une façons. Il y en a, ça va être avec des substances, avec la nourriture ou avec, tu sais, je crois que ce qui se passe quand on achète, c'est qu'il y a une montée d'hormones, de je ne sais pas trop de quoi. Je l'ai sûrement su à un moment, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une forme d'excitation qui vient te faire activer des zones du plaisir et te coupe un petit peu, tu vois, de ces émotions, de ces sensations qui sont désagréables. Et je crois qu'à un moment, c'est arrêter de les fuir et d'aller dire « Ok, je vais aller les voir ». Mais comme on est dans une société où on te dit « Regarde ton smartphone, va sur Instagram plutôt que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur », ça demande une vraie une discipline d'une certaine façon, tu vois. Et des fois, tu vas te faire embarquer, tu vas dire « Ouh, punaise, j'ai 4 sacs là, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est comme si tu sortais un peu d'un mauvais rêve. Tu sais, pas d'un mauvais rêve, mais un peu comme si tu étais presque sous hypnose et derrière, tu fais « Oula, j'ai fait n'importe quoi ». Et d'autres moments où tu vas peut-être t'en rendre compte au moment où tu vas ouvrir ton paquet de gâteaux ou peut-être qu'avant, tu vas aller prendre ton paquet de gâteaux et te dire « Attends, qu'est-ce qui se passe en fait là ? Qu'est-ce que je veux pas voir ?» Peut-être c'est un peu ça aussi, tu vois.
Et quels outils t'ont aidé, toi, pour justement apprendre à te connaître et à changer tout ce mode de vie?
Tellement de trucs.
Parce que parfois, on a beau le savoir, mais on se sent un peu démuni en disant « Mais je commence par quoi, en fait ?» Parce qu'ok, j'en suis conscient, mais c'est un peu vertigineux tout
ça. Le premier truc, j'ai envie de dire, c'est déjà d'être doux avec soi. Et se dire que si t'as besoin de manger un paquet de gâteaux parce que t'es pas bien, vas-y, mais mange-le en conscience que, en fait, ça vient te servir de doudou et c'est ok. Tu vois, je crois que ça, c'est la première étape, en fait, c'est mettre de la conscience dans les choses. Par exemple, moi, là, je suis rentrée du jeûne et effectivement, j'avais pas mal d'émotions, des trucs pas nécessairement faciles au niveau perso. Et je sentais que j'avais envie de manger une pizza. Sauf que je faisais ma remontée alimentaire et j'étais là, c'était pas du tout le bon moment. Bon, je m'en suis fait une en mode... je pense que personne dirait que c'est une pizza sauf moi à ce moment-là parce que c'était très light, mais je savais que j'en avais besoin et en conscience, je me suis dit j'ai besoin de ça là pour gérer ces émotions qui sont difficiles pour moi et je vais le faire, tu vois. Et c'est aussi juste être comme une bonne maman avec soi et arriver à voir quand est-ce que c'est le moment de dire attends là, tu reposes le paquet de gâteaux, t'arrêtes de déconner, et le moment où c'est de dire non, là t'en as besoin. Tu vois, t'en as besoin, t'as besoin de ça, c'est ok. Ça, c'est la première étape. Après, ça va être peut-être d'aller observer ça pas dans les moments, entre guillemets, de crise. Tu vois, le reste du temps. C'est à ça que va servir une thérapie, c'est à ça que va servir peut-être d'aller faire des retraites, d'aller faire même un jeûne, des stages qui vont à un moment t'amener dégrossir un petit peu, enlever des couches de l'oignon pour dire « Ouh, il y a un petit truc là qui attend d'être vu, tu vois. » Et souvent, en fait, on attend d'être dans la crise pour gérer, alors qu'en fait, si tu y vas à un autre moment, c'est plus doux, tu vois. Et même si la crise va te permettre très souvent de repérer sur quelle couche il faut travailler. Mais ça, c'est une autre étape. Après, je pense qu'effectivement, tout ce qui va être méditation, yoga, passer par le corps, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es dans ta tête non-stop. Enfin, je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais alors moi, ma tête, voilà. Et à un moment, c'est de se dire, oula, là, je suis trop dans ma tête maintenant. Et si je redescendais dans mon corps ? Peut-être que ça peut être en allant courir, ça peut être en allant danser, ça peut être en chantant, en criant un bon coup. Chacun va trouver, en fait, ça, ou peut-être en faisant de l'art, en dessinant. Mais c'est en fait, à un moment, en lâchant un petit peu l'histoire que te raconte ton mental, de te dire, t'as besoin de te remplir, t'as besoin de faire ci, t'as besoin de faire ça. À un moment, c'est comme s'il fallait le court-circuiter avec autre chose. Et cette autre chose, généralement, c'est le corps.
Et comment tu te positionnes par rapport à l'avenir ? Parce que, tu vois, en master 1, tu t'es dit, ok, j'arrête parce que ça me parle plus. Mais alors, à ce moment-là, tu fais quoi, en fait ? Est-ce que t'as peur ? Est-ce que t'as des plans, comme on a l'habitude de dire ?
Alors, c'est étonnant. En fait, le fait d'avoir fait ça, ça m'a comme autorisée à aller faire un truc où je pensais que j'allais décevoir mes parents, notamment mon père, parce que j'ai fait du coaching en images. Donc, le truc que moi, je jugeais comme étant très superficiel. Donc, c'était accompagner les femmes, ouais, les hommes aussi, j'en ai eu un petit peu, encore une fois, à s'aimer. Mais effectivement aussi à travers de leur image. Mais maintenant, je comprends à quel point ce n'est pas superficiel, dans le sens où c'est juste arriver à habiter son corps et ce que tu vois de toi et ce que tu donnes à voir de toi, mais au plus près de qui tu es. Et quand tu sens que qui tu vois dans le miroir, ça correspond quand même plutôt bien à qui tu sens à l'intérieur, il y a une forme de cohérence, quelque chose qui s'installe, qui est quand même très agréable au quotidien à vivre. Et effectivement, ça peut passer par des choses qu'on peut penser superficielles comme des vêtements, du maquillage, les cheveux. Mais en fait, tout ça, c'est d'imaginer ça comme des outils, tu vois, à s'approprier en fait. Juste pour dire, ouais, là, c'est moi. Et c'est pas parce que j'ai vu dans le magazine que c'était à la mode. On s'en fout de tout ça. C'est parce que ça, c'est moi. Et peut-être que dans 6 mois, ce sera différent. Mais ça, c'était vachement important. Mais sur le moment, j'ai vachement jugé ça. Mais je me suis dit, t'as envie de le faire, vas-y, fais-le. Et j'y suis allée. Je me suis éclatée pendant 6 ans. Et après, j'ai arrêté parce qu'en fait, en parallèle, j'étais sur Insta. Et je partageais aussi mon cheminant parce que j'ai l'endométriose. Donc ça aussi, ça peut être un des déclencheur d'un travail sur soi encore plus profond, la maladie. Encore une fois, le corps qui vient te dire « Alors attends, je t'ai envoyé des signaux, je t'en ai envoyé un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages. Bon, on va envoyer du lourd en fait, si tu veux. » Pour moi, c'est comme ça que je le vis. Il y a des personnes à qui ça ne parlera pas du tout et c'est complètement ok. En tout cas, moi, c'est mon rapport. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai vécu en tout cas la maladie et où là, j'ai pas pu faire l'économie en fait. D'un travail encore plus profond, d'aller voir des choses que je ne voulais pas aller voir. Et comme je partageais ça sur Insta, on m'a demandé de faire des ateliers, en fait, de partager toutes ces clés qui m'avaient aidée dans le fait de me reconnecter à moi, au-delà de l'endométriose. Hein, c'était pas du tout sur l'endométriose que je faisais, mais c'était de se reconnecter à peut-être qui on est vraiment. Parce qu'au fond, je crois que les maladies, c'est juste ça qu'elles viennent te dire. Hein. Elles viennent te dire, alors là, écoute, t'es à 10 000 lieues de qui t'as vraiment envie d'être, en fait, de qui t'as vraiment envie d'incarner. Donc, est-ce que tu veux pas revenir vers toi, en fait, tu vois, revenir un peu vers tes terres. Moi, c'est ça que j'aime bien imaginer. C'est comme si tu partais faire la guerre, faire 10 000 trucs. Et en fait, à quoi ça sert, tu vois, parce que tu fais la guerre contre toi, au final. Donc, c'est apprendre à revenir vraiment vers soi. Et donc, j'ai commencé un peu les ateliers. Et après, Ferdinand a eu le poste avec Ecosia, donc on est parti vivre à Berlin, donc c'était compliqué pour moi, je rentrais une fois par mois, bosser pendant une semaine comme une débile, alors en plus ça voulait dire prendre l'avion régulièrement, donc c'était pas facile pour moi à l'époque.
En fait, t'enchaînais tous tes ateliers quand tu rentrais en France.
J'enchaînais mes clients à l'époque. Et quand je venais, quand j'allais dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, que par exemple Ferdi devait y aller, ben, je l'accompagnais et j'organisais des ateliers. D'accord. Mais au bout d'un moment, j'ai fait, j'y arrive plus. Et puis c'est surtout que l'endo était quand même assez présente. Et là, je me suis dit, en fait, ça me va plus. Il faut que j'arrête ça. Et donc, naturellement, on m'a demandé de faire des ateliers d'une journée, des retraites. J'ai juste suivi, en fait.
Tout s'est dessiné petit à petit.
Ouais. Je crois qu'en fait, c'est... tu sais, des fois, y a, quand on lutte contre des propositions, ou alors tu dis, OK, pourquoi pas. Et c'est, moi, c'est souvent ça que je dis aux gens... qu'est-ce que t'as à perdre juste d'essayer ? Tu peux essayer, admettons, dans mon cas, d'animer un atelier. S'il faut, tu vas dire, mais c'était nul, j'ai détesté. Et OK, voilà. Ou alors, tu vas te dire, mais en fait, c'est trop bien, j'ai adoré. Et tu vas aller plus vers ça. Mais en fait, tant que t'essayes pas, c'est que tes projections, tes peurs d'être nul, de pas être légitime. Alors celle-là, elle est magnifique. voilà, et... quand en fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais avec ces femmes-là, je ne me posais plus aucune question. Sûrement comme toi, là, quand tu fais ton podcast, quand t'es avec la personne, tu te poses zéro question. Sauf que quand t'es peut-être toute seule dans ta chambre, des fois, t'es là, putain, nanani, tu te racontes plein d'histoires.
Tellement, oui.
Voilà. Mais quand t'es dans le feu de l'action, tu te rends compte que c'est juste. Et je crois que c'est à ça qu'il faut se rattacher quand on se pose plein de questions, c'est se dire, mais quand t'y es vraiment, est-ce que tu te sens à ta place ? Ouais, bah, alors... dit à ta tête de la fermer 2 minutes et de revenir à cette sensation-là de quand t'y es. Et moi, ça a été ça. Et donc, en fait, après, ça s'est fait un peu tout seul. Et après, il y a eu aussi un peu plus de partenariats avec des marketing, écolo. Ça, c'est une autre partie de mon métier, mais qui est aussi très chouette.
Et dans 5 ans, du coup, est-ce que tu te donnes des... je me vois comme si, comme ça, dans 5 ans, ou est-ce que tu continues d'être dans ce mouvement, à te dire peut-être que j'aurai une autre proposition qui va m'amener là, que je vais saisir
bah, je pense qu'il peut y avoir des envies, mais alors par contre, ce truc de faire, tu vois, des fois on te le demande, de dire visualisez-vous, alors moi je suis en mode, en fait, quand je reviens à il y a 5 ans, je suis tellement pas là où je pensais être, que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire Peut-être, parce que ça peut permettre de, je crois que ça peut être chouette de s'autoriser à rêver. Même si au final, ça ne vient pas, mais de se dire, OK, vers où tu as envie d'aller ? Et peut-être après d'aller carrément à l'opposé, et ce n'est pas grave. Dans 5 ans, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais envie, comme je te le disais tout à l'heure en off, de faire beaucoup moins de partenariats, peut-être plus du tout, j'en sais rien, on verra. Mais d'être vraiment essentiellement focalisée sur mes créations à moi, quelles qu'elles soient. Peut-être que ce sera des retraites, peut-être que ce sera plus des produits, des trucs, je ne sais pas. En tout cas, ça, j'ai plus envie. Mais j'aimerais surtout, plutôt trouver un lieu de vie.
Ok.
Un lieu de vie donc, dans la nature. Ouais. Mais j'ai envie de ça, j'ai envie de me retrouver. Peut-être que ma fille ait la chance de vivre dans un endroit peut-être un peu similaire à ce que moi j'ai connu petite parce que j'ai adoré ça. Tu vois, je crois qu'en fait, être en contact avec la terre, avec la nature, avec les arbres, avec un coucher de soleil, la vue de soleil, avec le bruit du vent dans les feuilles... Moi, j'ai vraiment besoin de ça. Et aujourd'hui, bon, bah, tu vois, c'est pas le cas. J'ai un petit jardin et c'est cool, mais je sens que je m'éteins un peu sans la nature. Donc ça, c'est important pour moi. Je crois que ce serait un de mes objectifs, de trouver un lieu où j'ai envie de planter mes racines, tu vois.
C'est beau ce que tu viens de dire, ça m'a tellement parlé. Tu t'éteins quand t'es pas avec la nature. Moi, c'est totalement le cas pour moi aussi.
Ah ouais, c'est hyper important. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Mais si c'est le cas, faut pas oublier, faut y répondre en fait à ça. Parce qu'au bout d'un moment, on s'assèche. Hein. C'est comme une plante qui est pas dans le bon terreau. Moi, je vois certaines de mes plantes, quand on m'a dit ah, c'était pas la bonne terre. Ah bah oui, j'ai vu. Ça lui a pas fait du bien. Et je crois qu'on est pareil.
Ouais. Il y a une question, tu me l'as dit avant qu'on commence. Je t'ai parlé de réussite, tu m'as dit, mais je me suis jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi, Ilia ?
Oui, c'est quand tu m'as envoyé les questions, j'ai fait, c'est quoi ce mot ? Alors, je crois qu'en fait, c'est un mot qui fait pas partie de mon vocabulaire parce que je crois que déjà, moi, j'y associe tout de suite une réussite scolaire et c'est quelque chose qui ne m'a jamais parlé. Ce système très élitiste français, j'ai toujours détesté ça. Peut-être aussi parce que j'avais envie d'être la meilleure, alors ça ne m'aidait pas du tout. Mais en fait, c'est quelque chose qui en tout cas me faisait pas du bien. Donc pour moi, la réussite, c'est un truc que je pense fait plus de mal qu'autre chose, en tout cas de valoriser ce mot-là tout le temps à toutes tes sauces. La réussite sociale, qu'est-ce que ça veut dire en fait aussi, tu vois ? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent, mais t'es malheureux ? Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Et c'est surtout que la réussite, j'ai l'impression que c'est souvent lié à un but. Tu vois, c'est genre j'ai réussi ma vie, si j'ai atteint ça, si... Et ça me parle tellement pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin. Tu vois, c'est d'être sur le chemin. C'est ça qui me remplit. En plus, tu te rends compte qu'une fois que tu as le truc que tu voulais, tu n'es pas plus heureux que ça et tu te lances un autre objectif.
Complètement.
Donc en fait, je ne suis pas sûre que la réussite, ça rend heureux. En tout cas, moi, ça ne me rend pas heureuse et ça n'a pas trop de sens. Si je devais dire, est-ce que j'ai... Aujourd'hui, je pense que je réussis peut-être socialement pour certaines personnes, mais en fait, le plus important, c'est juste d'être heureux dans ce que tu fais, d'être épanoui. Là, ça me parle, tu vois. Ouais, être épanoui, être serein. Ça, c'est plus des mots qui résonnent en moi, en tout cas.
Qu'est-ce que ça t'apporte d'être amoureuse au quotidien?
Alors, avec Ferdinand, on est très différents. Et en même temps, on a beaucoup d'envies similaires, donc ça, c'est vraiment chouette. Je crois que ça... Moi, ça... En tout cas, notre relation, qui n'est pas toujours facile, hein, c'est... s'il y en a qui sont fans d'astrologie, il est scorpion, je suis gémeaux, donc c'est genre deux manières totalement différentes d'appréhender la vie. Mais justement parce que c'est différent, ça nous apporte des prismes, tu vois, une manière de voir la vie qui est différente, et donc ça t'enrichit en fait. Ça t'enrichit dans ta manière de voir les choses. Quelqu'un qui te dit « ouais, tu penses... vert, moi je pense rose, et la réalité en fait c'est un mix de tout ça, que si t'es qu'avec des personnes qui pensent vert tout le temps, bah tu te dis que la réalité, la vérité, bah, s'il y en a une, c'est celle-là, alors que quand t'es avec quelqu'un qui a une autre manière de fonctionner, bah c'est super intéressant, même si c'est fatigant, clairement ça peut être super fatigant,
ça serait pas drôle sinon.
Voilà, mais après la chance qu'on a, c'est quand même d'avoir des valeurs de fond qui pour le coup sont les mêmes. Donc là, c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Et je crois qu'aussi, on s'accompagne, on se soutient dans tout ça aussi. Et ça, c'est quand même très porteur, en fait. Dans la relation de couple, il peut y avoir un truc un peu magique qui va venir aussi. Je crois que c'est l'autre qui peut venir faire ça, c'est-à-dire aller voir chez toi ce que toi, tu ne vois pas. Tu sais, souvent, enfin, je ne sais pas si ça t'arrive, mais tu vas dire des fois à l'autre, j'aimerais tellement... que tu te vois à travers mes yeux. Tu sais, quand t'es dans ton propre truc où tu te sens nul, où tu te sens machin, et où finalement, dans la relation de couple, il y a quelque chose comme ça, où l'autre peut te dire « Arrête, regarde à quel point t'es une belle personne, à quel point, tu vois, tu peux, je sais pas si c'est réaliser tes rêves, mais en tout cas dans la direction de tes rêves, on va dire. » Et ça, c'est quelque chose, je crois, de puissant. Où là, tu te sens pas seul parce que il y a quelqu'un qui vient te rappeler, alors c'est très spirituel, mais ta beauté en fait, tu vois, et que tu oublies souvent. Et je crois que dans un couple, bah, il peut y avoir de ça, et ça, c'est ça qui, je crois, est quelque chose de beau. C'est quand l'autre vient régulièrement te dire, je sais que tu oublies, mais tu es une belle personne et tu peux y arriver en fait. Tu peux trouver ça en amitié hein, aussi, hein.
Oui.
Mais en tout cas, je crois qu'il faut s'entourer de personnes comme ça, de personnes qui voient ce que t'as oublié un petit peu, tu vois, ou que tu n'as jamais peut-être réalisé de toi. Mais c'est en tout cas, c'est ces personnes-là qu'il faut, ces relations-là qu'il faut chérir.
Et est-ce que depuis que t'as adopté un mode de vie spirituel, ça a épluché un petit peu tes relations amicales?
Ouais, automatiquement, ça le fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anciennes relations qui n'ont rien à voir avec ça, que tu gardes. Je ne sais pas si c'est par nostalgie, par fidélité. Et des fois, par plaisir, en fait, aussi, tu retrouves les personnes. Mais effectivement, c'est des fois des choses qui te remplissent moins. Et c'est aussi accepter que même avec des personnes avec qui, sur le papier, tu vas dans la même direction, bah, des fois... les amitiés peuvent s'arrêter, en fait, aussi, c'est OK. Mais effectivement, quand tu as envie d'incarner dans ton quotidien tes valeurs, quelles qu'elles soient, que ce soit à un niveau plus écologique, spirituel, à tous ces niveaux-là, bah, y a des personnes, tu vas les déranger. Parce qu'en fait, elles pensent que tu les juges. Tu sais, souvent, c'est... des fois, les gens vont eux-mêmes, en fait, se culpabiliser, alors que toi, tu dis rien.
Oui.
Je dis, mais c'est pas parce que je suis végétarienne que je suis en train de te juger parce que tu manges de la viande, en fait. Hein. Mais les gens imaginent ça, et petit à petit, c'est eux-mêmes qui vont, en fait, s'éloigner de toi parce que finalement, tu leur pointes du doigt, peut-être, une incohérence ou quelque chose avec lequel ils sont pas complètement OK. Et il faut accepter, en fait, que tu vas servir de ça. Et des fois, c'est douloureux parce que c'est pas ton intention, mais c'est ce qui se passe chez la personne, en tout cas. Donc,
Il y a quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui vont écouter ce podcast? Aux jeunes et aux moins jeunes, mais oui. À cet âge où on se cherche un
on
petit
se
peu.
Cherche. Moi, j'ai envie de leur dire... J'aime pas envie de dire trompez-vous, parce qu'en fait, si tu pars du principe que tu te trompes au moment où tu le fais, bon, voilà. Mais en tout cas, essayez. N'ayez pas peur d'essayer, de tenter des choses, des plus petites choses comme des grosses choses. Moi, je dis toujours, en fait, essayez de voir si tu as un objectif, un rêve. Des fois, il est vachement haut. Donc, tu vois, plutôt que de tout de suite se dire, je vais grimper l'Everest, tu peux peut-être commencer par la petite colline à côté de chez toi, puis après par la petite montagne dans les Pyrénées, et tu y vas progressivement. Mais vas-y, en fait. Même si ça peut paraître très éloigné, en fait, de ton rêve, essaye. Et s'il faut, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ton truc. Ou s'il faut, tu vas dire, mais je kiffe de ouf. Et tu vas t'acheter de meilleures chaussures, un meilleur sac à dos. Et petit à petit, tu vas aller vers ce qui te fait vraiment vibrer. Et je crois qu'en fait, c'est ça. Vraiment, n'ayez pas peur d'essayer, parce que au final, même si c'est pas... Enfin, même si vous réalisez que c'est peut-être pas votre voie, bah, c'est un super cadeau. En fait, de réaliser ça, parce que vous savez un petit peu plus peut-être ce qui n'est pas vous et donc indirectement ce qui est vous, tu vois. Donc je dirais, ouais, plantez-vous, mais dans le sens d'une graine, tu ouais. vois, dans les deux sens. Plantez-vous, essayez, et petit à petit, en fait, vous allez tester plein de terreaux, voilà. Vous allez vous planter dans plein de terreaux, vous allez faire, ouais, alors celui-là, c'est un peu trop acide, celui-là, il me faut un peu plus de ça. Et petit à petit, vous allez trouver ce qui vous permet de vous épanouir vraiment. Donc, allez-y, quoi.
Est-ce que tu as un sujet ou une chose, une petite citation ou un truc à nous partager pour la fin? Ou est-ce que tu as le sentiment que tu as dit tout ce que tu avais envie de nous dire?
Non, ça va. Je crois que j'ai... en ce moment, j'ai ma tête qui est tellement... j'ai pas de citation en particulier. Je crois qu'il y a rien dans ma vie, tu sais, où je... Tu sais, ce truc que tu te rappelles tout le temps, en fait, parce que je pense que ça change. Mais... je crois, en fait, il y a une phrase, si, que j'ai envie de partir. Peut-être pas une phrase, mais en tout cas quelque chose, c'est de dire vraiment aux jeunes aujourd'hui de se faire confiance parce qu'ils savent. En fait, on te conditionne dans le fait de te faire croire que les autres savent mieux que toi. La société sait mieux que toi, tes profs savent mieux que toi, tes parents savent mieux que toi. Tu vois, et que toi, en fait, il faut juste que tu grandisses et que quand tu seras adulte, tu verras bien. Non. Vraiment, c'est pas vrai, en fait. C'est juste les adultes qui sont chiants par moment et qui rêvent plus, qui s'autorisent plus à rêver. Donc, vraiment, faites-vous confiance, parce que je crois qu'au final, souvent, en vieillissant, tu sais, ils font des crises de la cinquantaine et des burn-out et des machins pour revenir à peut-être des rêves qu'ils avaient à 20 ans et qu'on leur a demandé d'abandonner. Donc, peut-être évitez-vous le burn-out. Et allez-y direct, en fait. Oui.
Ben merci de le rappeler. Merci beaucoup, Ilia, pour cet échange. C'était
avec
génial.
Avec plaisir.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence.
Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.